Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lion d'or à la dernière Mostra de Venise, Joker s'est imposé en une semaine comme un phénomène de société internationale. Sans effets spéciaux et doté du budget le plus faible d'un film de super-héros, le film a réuni 1,6 million de spectateurs en 7 jours entre les États-Unis et la France, s'assurant ainsi le meilleur démarrage de l'année, loin devant The Dark Knight et autres Batman vs Superman. Mi-octobre, le film totalisait 548 millions de dollars de recettes dans le monde. Réalisé par un cinéaste surtout connu pour ses films potaches adolescents, Joker se veut non seulement un succès commercial, mais aussi un film sérieux, le premier film pour adultes de super-héros qui aborde des questions polémiques. Avant même sa sortie, Joker a ainsi déclenché une série de débats sur les réseaux sociaux où Todd Phillips, le cinéaste, a été accusé d'avoir réalisé une ode aux petits blancs et aux tueurs de masse. Ses critiques ont été renforcées par la presse de gauche, en particulier le New Yorker, qui a consacré pas moins de 2 articles à descendre le film. C'est le contraire en France, où à l'exception de l'équipe unanime du Masque et la Plume sur France Inter, tout le monde trouve le film génial et révolutionnaire. Parce qu'on parle de clown ou parce qu'on parle de narcissisme, je l'ignore, mais en tout cas c'est Juan Branco qui s'est senti suffisamment concerné dès le début pour envoyer 2 tweets en ode au film qu'il considère comme une ode aux luttes insurrectionnelles et aux gilets jaunes en particulier. Jacques Mandelbaum dans Le Monde a renchéri, voyant dans le Joker le film le plus anticapitaliste jamais produit depuis des années. Pierre Robert rappelait sur France Culture que le Joker dans le tarot est la carte du fou, du bouffon du roi, la wild card qui peut prendre n'importe quelle valeur. Film réac ou film révolutionnaire ou rien de tout cela, quelle est la valeur de Joker ? Pour en parler aujourd'hui avec nous, Jordan Mincer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes américain, vous êtes critique Hollywood Reporter et avec vous on va parler de la réaction de la presse américaine au film. Et on va la comparer à ce qui se passe en France. William Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, médiéviste de formation. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Super-héros, une histoire politique ».
Oui.
Vous avez vu Joker.
Oui.
Et Samuel Blumenfeld, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, habitué de cette émission. Vous avez réalisé nombre d'interviews des plus grands cinéastes internationaux, plus un portrait, une interview de Todd Phillips. Donc,
absolument.
Vous connaissez le sujet. Alors d'abord, tous les trois, est-ce que c'est un bon film ou est-ce que c'est pas un bon film, d'abord, Joker ?
Si je peux commencer,
moi, je
pense que c'est pas forcément un très très bon film, mais c'est un très bon film de comics. Et je distingue un peu entre les deux, parce que on est quand même dans un cinéma du genre très très défini depuis 10 ans ou plus, 20 ans maintenant, et je trouve que ce qu'il fait avec le genre de comics de super-héros, c'est très très intéressant. Après, en tant que film, j'ai un peu du mal à y croire, parce qu'en gros, sans le côté comics, le film fonctionne mais pas du tout. C'est une espèce de pastiche de Taxi Driver, de Le Vals de Bintin, d'autres films. Donc j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin que ça soit un film de comics pour que ça soit un film intéressant. Donc voilà, c'est un peu entre les deux, mais maintenant que Hollywood produit énormément de films de comics, je trouve que pour un film de comics, c'est ambitieux et assez fort.
William Blanc.
Alors, moi, je suis historien, donc je ne suis pas critique, oui. Donc je ne vais pas me permettre de
donner... Vous avez un avis sur
moi,
sur
j'ai
un
bien
film.
Aimé le film. Alors après, juste une remarque que vous avez faite, vous avez dit, certains prétendent que c'est le premier film sérieux de super-héros.
Ouais. En
fait. Alors déjà, moi, pour moi, quand on regarde l'histoire des comics, dès le début, il y a des comics très sérieux, même de super-héros, en fait. Donc, dès les années 30.
Ah,
ouais, donc, ça, on pourra en parler pendant des heures. C'est une première chose. Et il y a déjà eu pas mal de films de comics, en fait, qui parlaient de choses très sérieuses. Hein. Prenez, il y a 2 ans, même pas, il y a eu Logan, par exemple, hein, qui était un film très sombre, de James Mangold, en fait. Hein, donc, très sombre, très dur, en fait, qui était une espèce d'ode à la fin des super-héros. Donc, presque une espèce de western crépusculaire. Voilà,
oui,
donc,
avec la musique de Johnny Cash.
Voilà, voilà. Donc, je pense que Joker, c'est pas une première, hein, dans, il y en a eu d'autres, en fait, hein. Donc, c'est pas une première dans un essai de prendre les super-héros sur un ton très sombre, très dur, très grit, en fait, hein, pour employer un terme américain. Donc,
La différence, c'est quand même que celui-ci, il y a pratiquement pas de super-pouvoir. Enfin, on est dans le réalisme, on se veut, en tout cas, dans le réalisme le plus total, Samuel Blumenfeld.
Ah oui, justement, c'est que c'est pas un film de super-héros. C'est ce que les Américains appellent un spin-off, c'est-à-dire qu'on prend un personnage de l'univers d'un comic book, donc en l'occurrence le méchant emblématique de Batman, à savoir le Joker. Et donc il n'y a pas question de super pouvoir, il n'y a pas de technologie numérique à proprement dit dans le film. Et ce qui est assez étonnant au sens de surprenant dans ce film, c'est que d'abord c'est un film qui est étonnamment daté année 1970. D'abord dans son espace-temps, ouais, clairement, puisque le film en fait donne des bornes chronologiques, puisqu'on voit un cinéma à la fin qui joue Blowout. Donc en l'occurrence, un film du tout début des années 80, donc ce qui laisse à penser que le film débute à la fin des années 1970. Et donc cet exercice de style sur les années 70, comme l'a souligné à raison Jordan Minzer, Taxi Driver de Scorsese, mais aussi d'autres films, Un après-midi de Sidney Lumet par exemple, cet exercice de style aussi vise aussi à retourner à un New York disparu, celui des années 70, celui du maire Graham, donc à une époque où New York était véritablement l'enfer sur Terre et était devenu l'un des protagonistes principaux du cinéma américain des années 70. Et donc ce Joker vise précisément à nous ramener dans cet espace-temps où d'ailleurs ne se déroule jamais la bande dessinée de Bob Kane. Et une dernière chose, autre exercice de style cinématographique, quoi, dans le film de Todd Phillips, qui participe de sa réussite, c'est l'étonnante interprétation de Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker. Étonnante parce qu'en fait, elle nous ramène à l'époque du cinéma muet, est clairement inspiré de ce que peut faire Lon Chaney et de ce que fait Conrad Veil dans L'homme qui rit de Paul Leni. Donc, ce cocktail-là et ce retour à l'espace-temps des années 70 offrent un cocktail surprenant qui participe de la réussite du film.
Alors moi, William Blanc. Justement, c'est intéressant le placement aux années 70 parce que justement, en fait, c'est à ce moment-là que dans les comics, le Joker devient réellement un personnage sociopathique. En fait, dans les années 60, dans la série Batman à la télévision, c'est plutôt un personnage assez rigolo. Voilà, c'est une espèce de clown. Voilà, qui est une série assez amusante en fait. Hein, donc, c'est une série pop. Voilà, tout à fait. Donc, qui est même assez plaisante à regarder aujourd'hui avec le recul, quoi. Donc, et là, dans les comics, c'est à ce moment-là que le Joker devient un sociopathe, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être un clin d'œil quand même en fin de compte aux comics. Et puis, Gotham City, en l'occurrence. Hein, bon, j'apprends pas ça à New Yorkais, mais Gotham, enfin, c'est un des surnoms de New York, en fait.
C'est ce qui est marrant. C'est le premier film dans la série Batman vraiment de pas du tout cacher que Gotham City c'est New York. Il y a même une scène à la fin de Joker où il y a une espèce de meute qui se passe dans une station de subway, de métro new-yorkais. Et la station, c'est Bedford Park Boulevard. Et je le connais parce que je vivais là-bas dans le Bronx avant de venir en France. Et c'est la vraie station. Donc, ils ont même pas changé de nom pour inventer un faux nom. Ils ont dit, en gros, c'est The Bronx, c'est New York. On est plus ou moins là.
C'est le New York des années 70, c'est à la fois l'enfer sur Terre et c'est aussi un des hauts lieux de la contre-culture. Il y a les deux trucs qui coexistent quand même. Ça se sent quand même un peu dans le film, dans le personnage du Joker. Alors, qu'en est-il de l'aspect politique? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui fait que ce film est un film est un tel phénomène de société? Est-ce que c'est son idéologie politique? Est-ce que vraiment le film est ce qu'on dit Juan Branco, c'est-à-dire face à un ordre délirant et embrassant tous les excès, et Hollywood choisit son camp avec courage, je cite Juan Branco, puissant, il est temps de trembler. Hollywood est prêt à sacrifier sa vache à lait qui est Superman. Est-ce que ça a le moindre sens?
Alors, moi, juste par rapport à ça, bon, Branco dit ce qu'il veut, mais là où c'est intéressant, c'est que je vais parlant pas du Joker, mais en fait, en fin de compte, un super-héros, il y a déjà eu plein d'exemples de super-héros, en fait, on tirait des super-héros dans tous les sens politiques. Moi, je donne un exemple justement qui date des années 70 avec le Punisher. Moi, j'en parle dans mon bouquin. C'est un exemple très, très intéressant parce que c'est un personnage qui est créé en 74 comme un vétéran du Vietnam qui est un personnage qui est mauvais au début. Et dans les années 80, au moment où la NRA le vend en poupe, ça devient justement, vu que c'est un personnage qui utilise des armes à feu, ça devient un personnage positif. Et il y a même des films d'action avec, notamment un avec Dolph Lundgren, qui a été fait dans les années 90. Et donc, dans les années 80-90, c'est un personnage positif. Et puis, dans les années 2000, suite à la Seconde Guerre en Irak, ça devient un peu l'image du vétéran qui revient avec des troubles psychologiques. Alors qu'en même temps, dans les troupes américaines, notamment chez Chris Kyle, qui va écrire American Sniper, qui après va être adapté au cinéma par Eastwood, Vous avez des soldats qui prennent le symbole du Punisher, qui est une tête de mort, en fait, qui se le mettent sur leur plastron, en fait. Il y a même des policiers qui vont le faire après le mouvement Black Lives Matter. Et au point où le créateur de Punisher, Jerry Conway, qui l'écrit en 74, va devoir dire sur Twitter, je vous rappelle que ce type-là, je l'écris comme un sociopathe dans les années 70. Donc, vous voyez, c'est pas la première fois qu'un personnage va être tiré dans tous les sens, parce que, en effet, moi, j'ai lu aussi un peu la presse américaine, il y a en effet des gens qui se disent, voilà, oula, c'est la figure même du terroriste incel, donc c'est le terroriste.
Ah bah complètement.
Voilà, blanc, enfin, voilà, qui prend des armes, qui a eu malheureusement pas mal de cas, notamment à El Paso récemment et tout. Mais, par exemple, moi, j'ai lu un article dans Salon.com, alors évidemment, c'est plutôt très à gauche, hein, mais qui vont dire comme Juan Branco en disant, voilà, c'est une critique du alors, gangster capitalism, quoi, donc du capitalisme gangster, quoi.
Mais justement, ce qu'il dit Joker lui-même dans le film, il a pas de politique, il est pas politisé, il le répète plusieurs fois, et le phénomène, l'espèce d'insurrection qui vient, c'est à cause de lui, parce qu'il tire sur trois personnes, il tue trois personnes dans le métro au début du film, et il y a cette insurrection, ces mouvements qui viennent, mais il n'avait pas envie de créer ces mouvements, et il fait presque pas partie du mouvement jusqu'à à la fin du film. Donc, je pense que le film est très malin, en fait, de montrer justement qu'il est toujours un peu antipolitique, le Joker lui-même. Le film va montrer toutes les causes de son changement, pourquoi il va devenir un vrai sociopathe à la fin du film. Il va dire qu'il y a des raisons sociologiques, économiques, politiques, psychologiques et tout. Mais en fin de compte, je ne trouve pas en fait que le film soit vraiment politique. Je trouve que c'est plutôt malin de la part de Todd Phillips de baser le film dans les années 70, dans cette période-là, où il y avait tous ces problèmes, effectivement, à New York, et après d'introduire le personnage fictif de Joker là-dedans. Mmh. Mais je pense, moi, je vois pas, et il faut comprendre aussi qu'un film comme ça a été écrit, à mon avis, il y a 2-3 ans, et on va parler des incels, mais on ne parlait pas des incels il y a 3 ans.
Il faut dire ce que c'est les incels, hein, parce que les auditeurs ne savent pas forcément.
Incel, ça veut dire involuntary celibate, et en fait, c'est des hommes plutôt blancs aux États-Unis qui disent qu'ils n'ont pas de relation avec des femmes, et c'est pas volontaire, c'est involontaire, ils ont envie de ça, et ils ont une espèce de mouvement en ligne sur des sites comme 4chan et de sites de chat. Et il y en a plusieurs qui ont revendiqué des attentats
et qui ont passé à l'acte.
Fait des attentats.
Et qui sont antiféministes aussi. Voilà.
On va revenir sur cette dimension quand même. Mais oui, Samuel Blumenfeld.
Il faudrait pas se perdre dans les tweets de Juan Branco, parce que c'est trop long.
Non, mais prenons Mandelbaum, par exemple. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, qui a vu dans le film un des brouillots les plus anticapitalistes de ces 20 ou 30
D'accord.
dernières années.
Alors, il faut pas confondre ce que met en scène un film, les projections fantasmatiques qu'un journaliste peut y mettre dessus. Parfois, elles peuvent être justes, et d'autres fois, à côté de la plaque. Bon. Donc, il faut bien garder en tête, en fait, ce qu'est le film, quand même, raisonner à partir de ce qu'est le film. Nous parlons d'un film de Todd Phillips. Alors, Todd Phillips, c'est quelqu'un qui est mal identifié des auditeurs. C'est essentiellement un auteur de comédie, parfois un excellent auteur de comédie, en particulier d'une comédie, en revanche, que tous les éditeurs connaissent, qui est Very Bad Trip. Et la question qui est très intéressante, c'est de savoir pourquoi ce très bon auteur de comédie a réalisé non pas un film de super-héros, mais un film noir, prenant pour horizon les années 70, qui sont donc une période particulièrement sombre du cinéma américain, c'est-à-dire dans les sujets qu'il traite. Et la raison pour laquelle Todd Phillips est passé en fait de l'univers de la comédie au film noir, c'est tout simplement parce que il n'arrivait plus à réaliser des comédies comme il l'entendait, en raison du politiquement correct. Et tout ce qui était mis en scène dans ces films, les plus célèbres, et surtout donc Very Bad Trip en premier, n'était plus possible à ses yeux aujourd'hui, parce que sinon il aurait eu droit aux femmes qui lui tombent dessus, enfin tous les groupes de minorités possibles lui seraient tombés dessus. Donc il estimait ne plus pouvoir trouver cette liberté dans la comédie qu'il trouve dans ce film qui s'inscrit dans l'univers du comic book, mais pas seulement. Et pour avoir donc interviewé Todd Phillips, ou avoir parlé, alors ce qui est toujours quand même au moins l'intérêt de parler à un metteur en scène, c'est qu'il peut au moins clarifier ses intentions, mais il n'est pas non plus propriétaire des significations de son film. Donc il ne dit rien, mais néanmoins, il est important quand même de parler à un metteur en scène pour définir les horizons qui sont dans le film. Et ce que m'expliquait aussi Todd Phillips, c'est qu'il se sentait aussi brimé par les intolérances à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Et donc, son film n'était pas politique au sens où il est une étude de caractère, à savoir un psychopathe qui est atteint d'un rire continu, qui finit par se grimer. Et donc, c'est une étude de caractère comme Taxi Driver était une étude de caractère. Alors, bien évidemment, dans Taxi Driver, il y a une dimension politique, mais si on commence à mettre sur Taxi Driver les intentions que Juan Branco veut y mettre, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce serait complètement délirant. Or, si Taxi Driver sortait aujourd'hui, nous ne serions pas à la menace de plusieurs tweets de Juan Branco.
Il y a quand même un argument dans un article de l'Économiste, il y a quand même un argument qui me semble valide. C'est quand l'Économiste écrit que la différence entre Taxi Driver et Joker, c'est que Taxi Driver se veut un film d'art avec une vision misanthrope revendiquée, assumée complètement et développée, alors que Joker est un film dont la narration repose sur des codes hollywoodiens sans distance, sans dimension critique, et qui ont pour conséquence que on est conduit de toute façon à adhérer à la vision du héros. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une époque où les films d'art et les films de masse, cette différence elle est claire, et où aujourd'hui tout se mélange, et où du coup le film est nécessairement ambigu dans ses intentions et dans son résultat?
C'est pas... Moi, pardon, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette lecture. D'abord, il peut essayer de pardonner Taxi Driver, et de dire que Taxi Driver est moins peut-être dangereux parce qu'il joue, c'est pas un film grand public, mais il faut dire aussi que si on critiquait Joker parce qu'on avait peur que des attentats soient inspirés par le film, c'est quand même Taxi Driver qui a inspiré la personne qui a assassiné John Lennon.
Et donc, la tentative d'assassinat contre Reagan.
Voilà, exactement. Donc, je pense que déjà, c'est distinguer entre les deux. Je pense que c'est pas forcément. Je pense qu'il y a des codes dans tous les genres de cinéma qu'on exploite dans des différents sens. Moi, ce qui m'a gêné dans cette, il y avait un peu la même lecture du film dans IndieWire où le critique a dit à Venise que le problème, c'est que Taxi Driver était un film d'art essai, et ceux qui voient le film vont comprendre le film, ils vont comprendre qu'il faut pas tirer sur des gens après avoir vu le film, grosso modo, alors que Joker, ça va être vu par le grand public et des gens peut-être un peu moins intelligents, et ils vont peut-être pas comprendre, et ils vont prendre l'exemple du Joker et ils vont aller tuer des gens. Moi, j'aime pas du tout, c'est une espèce de mépris du spectateur, et j'ai vu ça, c'est écrit plusieurs fois par des critiques, surtout américains, new-yorkais, après l'avant-première du film à Venise. Et je ne suis pas d'accord. Je trouve que, justement, ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est qu'il y a toujours ce basculement entre... il y a des grands films hollywoodiens qui sont aussi des films d'art essai et des films d'art essai qui sont aussi grand public.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann. When I
William Blanc, vous vouliez revenir sur l'origine du Joker.
Oui, parce que je pense que ça peut un peu permettre de parce que vous avez parlé de l'homme qui rit en fait, hein, donc ce film de 1928 qui en effet, alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est ce film là, alors bon, le Joker a été co-créé par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane en 1940, et en fait il y a deux personnages à l'origine du Joker. C'est d'un côté donc Quasimodo, hein, donc Jerry Robinson a dit que c'était inspiré de Quasimodo. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le film de Batman de 89. À la fin, ça se passe dans une cathédrale et c'est aussi donc c'est une allusion en fait à ça, en fait, hein, très nettement à cette origine hugolienne du Joker. Et puis il y a aussi L'homme qui rit, qui le film de 28, qui lui-même inspiré d'un roman de Hugo de 1869, où là pour le coup c'est un personnage qui a été blessé. Hein, donc ça raconte l'histoire d'une tragédie où c'est un homme on lui a créé un sourire en le torturant et tout, et il venait d'une famille noble. Hein, ça se passe dans l'Angleterre du 18e siècle. Et en fait, que ce soit avec Quasimodo ou L'homme qui rit, à chaque fois, la difformité physique, c'est une marque, en fait, de l'oppression, en fait. Voilà. Donc, c'est pour symboliser l'oppression sur un corps, voilà, par un pouvoir, en fait. Et ça, cet aspect-là, il est vite évacué dans le Joker, en fait, de comics, en fait. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il revient dans les années 80, quand Alan Moore, grand auteur de comics, va écrire un grand comics, hein, qui s'appelle The Killing Joke, hein, qui raconte l'origine du Joker et qui a inspiré d'ailleurs le film de Todd Phillips en partie, hein, donc qui a servi d'inspiration.
Référence explicite, hein, il le dit, il le revendique.
Et là, pour le coup, dans ce comics-là, le Joker, c'est un personnage aussi sociopathique, mais c'est aussi présenté comme une victime aussi des puissants, du pouvoir, de la situation sociale, quoi. Donc, c'est assez intéressant de voir cet aspect-là parce que il y a une espèce de retour du refoulé, j'ai l'impression, à la fois que ce soit dans le comics d'Alan Moore ou dans ce film-là, en fait, par rapport un peu à l'origine, qui était, dans les personnages d'Hugo, il y a vraiment une volonté, en fait, de critique sociale. Quand Hugo, il fait son roman, c'est une critique du Second Empire,
oui,
c'est une critique.
Hugo, oui, ouais. Mais dans ce film-là, on cherche un peu. Il y a quand même un mystère sur le. Qu'est-ce qui fait que ce film est un tel phénomène international? Est-ce que vous trois avez une hypothèse là-dessus?
Il y a forcément plusieurs hypothèses. L'une d'elles, à mon sens, tient au fait que le film s'inscrit dans l'horizon du comic book à une époque où donc le film adapté de comic book sont devenus le socle du cinéma américain et donc du cinéma populaire mondial de manière mécanique. Et on est frappé de voir comment, durant toutes ces années, nous avons subi des films qui étaient d'une pauvreté terrible, une pauvreté narrative terrible. Or, le Joker s'inscrit dans cet univers, mais s'appuie justement sur une littérature de comic book, particulièrement apparue dans les années 70-1980. On a cité The Killing Joke tout à l'heure, mais on pourrait citer The Dark Knight Returns de Frank Miller. Ouais. Et tout d'un coup, en fait, cette complexité narrative qui était là dans tant de romans graphiques, et de manière assez passionnante, se retrouve enfin à l'écran. Alors, elle s'était trouvée à l'écran auparavant dans les films de Christopher Nolan, mais elle s'était perdue depuis quelques bonnes années. Or, on la retrouve avec Joker. Donc, je pense que c'est
avec le méchant.
Avec le méchant.
Ce n'est pas forcément un hasard.
Ce n'est pas un hasard, parce qu'en plus, l'une des spécificités de Batman, c'est que ce n'est pas seulement son personnage principal, le super-héros qui réussit, ce sont tous les méchants. C'est l'une des grandes réussites de cette BD, c'est peut-être celle qui présente les méchants les mieux écrits et les plus fascinants.
Jordan Minter, sur le sujet.
Oui, je vais juste ajouter, je pense qu'ils ont, Phillips, c'est son co-scénariste, parce que Scott Silver, ils ont écrit le film ensemble. Je pense qu'ils ont aussi, qu'est-ce que tout le monde a retenu des autres films Batman? Surtout, on a retenu de Dark Knight, on a retenu Heath Ledger qui jouait le Joker. C'était le personnage le plus mémorable, presque le méchant le plus mémorable. Et ils ont eu cette idée assez brillante. Je pense que c'est pourquoi le film marche autant. C'est, on va faire toute une origin story, l'histoire d'origine de ces personnages. Et ce qui est fascinant en regardant le film, et c'est pourquoi je trouve que c'est un très très bon film comique, c'est que tout le long du film, Joaquin Phoenix, il va commencer le film tout faible, il peut pas du tout contrôler lui-même, il rit tout le temps, il a tous ses tics et ses problèmes, et tout le long du film, il va trouver un contrôle, il va devenir une espèce de chaos contrôlé, et à la fin du film, en gros, il va devenir ce qui était Heath Ledger dans le Dark Knight, je trouve. Ce qui est un personnage flippant parce que il était très contrôlé. Et c'est ça aussi qu'ils ont trouvé le meilleur ingrédient d'un des autres Batman et ils ont fait tout un film là-dessus.
Moi, je voudrais quand même me faire l'avocat du diable une seconde sur cette histoire. J'ai vu le film en salle le jour de la sortie au Max Linder dans une salle qui était remplie de mecs. Il y a quasiment que des hommes, à quelques exceptions près, dont mon voisin de gauche, que je ne connaissais pas et que je préférais éviter après, qui était super excité dès que Joker essaie de faire quelque chose de violent. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je voudrais revenir une seconde sur le parcours de Todd Phillips avant même les comédies. Todd Phillips, c'est quelqu'un qui a grandi dans une banlieue classique. Il dit avoir été élevé par sa mère et ses sœurs, avoir été élevé comme une femme, c'est-à-dire qu'il a porté des robes jusqu'à ses 5 ans. Il est allé d'abord à l'école avec des cheveux longs, etc. Et avant de faire ces comédies de potaches, de mecs en fait, qui essaient d'accéder à l'âge adulte, il a fait réaliser plusieurs documentaires, dont un documentaire sur les fraternités étudiantes particulièrement gore. Enfin, il s'est lui-même inscrit dans une fraternité étudiante et il a fini littéralement couvert de vomi. Enfin, c'était assez trash. Et puis surtout, il a réalisé un documentaire sur un chanteur ultra-punk qui s'appelle Gigi Allen. Qui chantait nu, qui déféquait sur scène. Oui. Le documentaire Hated, J.J. Allen and the Murder Junkie est sorti, et au Festival de Toronto, quand Joker est sorti, Phillips a mentionné Allen comme une de ses références en présentant le film. Et par ailleurs, le film sur Allen a été financé, je ne sais pas si vous savez ça, en vendant des affiches dédicacées par un ami de Allen qui s'appelle John Wayne Gacy, qui était clown de profession et qui a été enfermé pour avoir violé et tué 3 jeunes hommes entre 72 et 78.
The Clown Killer, oui, oui,
The
absolument.
Clown Killer. Donc c'est pas tout à fait. Il y a une sorte de ligne dans les films de Todd Phillips, depuis le documentaire jusqu'aux comédies où on voit des types qui essayent d'accéder à une forme de masculinité à travers des expériences trash, le plus souvent misogynes, même si c'est traité sur le mode de la comédie. Donc c'est quand même, il y a une attirance de Todd Phillips pour une certaine forme d'immaturité masculine. C'est quand même un paradoxe quand on entend dire que Joker est un film particulièrement adulte dans l'univers des comics. Il me semble, non ? Oui ?
Là, pour le coup, c'est un paradoxe de un peu tout le genre super-héroïque, en fin de compte, hein, parce que on est dans des comics et c'est censé être une littérature adolescente, et alors qu'en fait, ça peut parfois traiter de choses extrêmement sérieuses.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas dans Todd Phillips, dans son parcours, quelque chose qui fait quand même écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur les incels, sur les mecs, sur les types qui n'arrivent pas à l'âge adulte, qui reste coincé dans une forme de masculinité adolescente et maladive.
Ce qui est certain, c'est que le Joker, en fait, et ça se voit y compris dans The Dark Knight, où il y a un moment où Heath Ledger est habillé en infirmière, en fait. Depuis les années 70, le Joker, il y a une forme de... Alors, c'était Frank Miller hein, qui disait qu'en fait, sa représentation du Joker dans The Dark Knight, dans le roman graphique, dans le comics, en fait, hein, il disait que ça exprimait ses peurs homophobes, en fait, voilà. Et en effet, on voit le Joker dans The Dark Knight en train de se mettre du rouge à lèvres, par exemple. Donc, il y a une forme, voilà, d'espèce de représentation.
Joaquin Phoenix joue, il a des intonations à un moment donné qui sont sexuellement troubles, enfin, qui sont ambiguës.
Voilà, exactement. Il y a une ambiguïté, en fait, qui est là pour aussi interroger la masculinité, en fait, qui fait part à des angoisses très masculines et tout, voilà. Donc évidemment, cet aspect-là, il est présent dans le Joker, ça c'est une évidence, hein, moi. Et même en l'occurrence, le personnage dans le film de Todd Phillips, c'est pas un personnage sexuellement mature, quoi, en fait, hein, très nettement, quoi, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là, en fait.
Si on met de côté sa mère, qui finit par tuer, les deux femmes qu'il rencontre essentiellement, c'est sa voisine sur laquelle il fantasme mais qu'il rencontre pas vraiment, et puis une assistante, enfin deux assistantes sociales qui s'occupent de lui. Ces trois femmes, les deux assistantes sociales et la voisine sur laquelle il fantasme, ont la particularité d'être noires.
Oui, en plus, oui. C'est quelque chose que Richard Brody dans The New Yorker a mentionné. Il a même compté le personnage noir dans le film. Je trouve ça un petit peu gênant parce que c'est clair, même si c'est pas dit, que le Joker, Arthur Fleck, comme il s'appelle dans le film, il habite dans le Bronx, à New York, qui est un quartier noir. C'est parce que il est pauvre, et il est dans un quartier pauvre. À New York, dans les années 70, le quartier le plus pauvre était aussi le quartier noir ou latino. Et je trouve que ça, c'est pas forcément, il n'y a pas je trouve pas une intention là de Todd Phillips de faire un film racial. Il montre plutôt une classe, une question sociale, je trouve.
Oui, mais est-ce que tout ça mis bout à bout, c'est-à-dire l'immaturité, la masculinité mature, le rapport aux femmes impossible qui se trouvent être aussi des femmes de couleur, est-ce que ça finit pas quand même par dessiner quelque chose qui donne un peu, qui fait quand même un peu écho aux incels, aux blancs frustrés, ça, Samuel Bunfeld,
je trouve pas. Mais en fait, si vous voulez, c'est vraiment pas cette piste-là que j'emprunterais. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'elle n'existe pas, cette piste-là, mais c'est pas celle-là que j'emprunterais. Il y a un autre aspect qui me frappe beaucoup dans le film et qui n'appartient qu'à lui. Enfin, je veux dire, pour un film mettant en scène cet univers de comic book, c'est que le passé imaginé du Joker par Todd Phillips et son scénariste, c'est celui d'un stand-up qui aspire donc à la renommée et qui ne parvient pas à faire carrière. Donc, ne parvenant pas à faire carrière devant les caméras de télévision, il va la faire dans la rue. Mais il y a en fait cette dimension société du spectacle qui avait déjà été explorée dans le Scorsese de La Valse des Pantins, mais qui tout d'un coup, à l'aune du monde des années 2010, même si le film se passe dans les années 70, mais à l'aune des années 2010, d'une société, même plus du spectacle, mais d'une société d'internet, du selfie, etc., prend une toute autre force et rend ce personnage du Joker étonnamment actuel et pertinent.
Et pourquoi? Parce que justement, le fait qu'il essaye de faire de la télé, enfin, ça fait référence à un rapport à la télévision qui pourrait paraître daté par rapport à aujourd'hui.
Qui est volontairement daté dans le film, mais qui tout d'un coup, cette aspiration à la célébrité, à vouloir s'extraire de la masse, qui est le fantasme du web, c'est le fantasme offert par le web, trouve soudain une résonance très forte aujourd'hui. C'est ainsi que je le comprends.
Ouais, non, moi, je suis d'accord avec vous. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a une forme. C'est peut-être l'aspect politique du film, en l'occurrence. C'est qu'il y a une forme, en fait. C'est pas une politique militante, en l'occurrence. Hein, voilà. Donc, en tout cas, dans l'intention de Todd Phillips. Après, encore une fois, chaque film, c'est une bouteille à la mer. Alors après, chacun, il prend ce qu'il veut. Donc, il y a une critique, en fin de compte, de l'atomisation sociale, en fait. Voilà. Le Joker n'est plus dans une société. En fait, il est dans du chacun pour soi. Et donc, c'est comment je m'extraire de la masse, quoi. C'est moi et la masse, quoi. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui a commencé. Andy Warhol parlait des 15 minutes de célébrité. Voilà. Donc, c'était prophétique, en l'occurrence. Hein, c'était cette idée-là. Donc, tout le monde aura ses 15 minutes de célébrité dans le futur, mais c'était prophétique. Et je pense que ça a commencé vraiment, c'est devenu vraiment le cas dans les années 70, 80. Oui. On est rentré dans la société du spectacle, du chacun pour soi. Et voilà. Et donc, c'est pour ça, après, qu'on peut, en tirant un peu le fil, on peut dire, voilà, c'est une critique, de l'ultralibéralisme, de la société, enfin, de l'absence de tissu social, en fait, le Joker, enfin, c'est quelqu'un qui a plus de contacts sociaux, en fait.
Oui, donc, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui cherche à s'extraire de la masse, ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de la masse? Parce qu'une des choses qui est frappante, c'est que les gens qui l'agressent au début, le gang de petits jeunes dans la rue, et puis ensuite les trois types de Wall Street, pourraient être aussi bien des gens qui mettent des masques de clown après. Il n'y a pas vraiment de différence entre les gens qui l'attaquent et ceux qui le soutiennent.
Oui et non, parce que justement, celui que le Joker tue dans le film, c'est que ce qui représente le pouvoir, plus ou moins. Parce que justement, il tue pas des jeunes, il tue pas, à un moment donné, il y a le clown avec qui il travaille, qui décide de pas tuer, il va tuer ceux qui ont le pouvoir. Et donc, c'est ça pourquoi on peut voir peut-être une espèce de revendication, si on veut, des gilets jaunes ou de Antifa ou quelque chose de politique dans la maison. Il bute trois hommes de Wall Street. Et si on a le droit de spoiler le film, il va buter après le talk show host, celui qui a le plus de pouvoir. Et ce qu'il lui dit, et si je peux dire un gros mot en anglais, avant de buter, il dit « You get what you fucking deserve ». Et je trouvais ça très très fort, en fait, dans le scénario. Et d'ailleurs, cette réplique va être répétée après par celui qui va tuer Thomas Wayne, qui est aussi un homme de pouvoir et un méchant. Ils ont fait de Thomas Wayne un méchant. Thomas Wayne étant le père de futur Batman. Et donc, en fait, il y a quand même, je pense que au moins dans le film, il va distinguer un peu entre ceux qu'il va tuer et ceux qui sont peut-être de son côté. Et c'est vraiment une question de riche et de pauvre un petit peu quand même dans le film. Et ceux qui ont le pouvoir et ceux qui l'ont pas.
Je me permets juste de faire encore une fois un petit parallèle avec un autre film, enfin une autre œuvre de comics en fait, hein, qui est encore une fois d'Alan Moore, hein, donc celui qui a écrit The Killing Joke, mais il a écrit un autre comics 6 ans avant qui s'appelle V pour Vendetta, qui est adapté au cinéma par les Wachowski donc en 2005. Et là où pour le coup c'est pareil, alors ça se passe dans un futur fasciste, voilà, donc c'est pas le même, mais il y a aussi une image d'un personnage dont le corps a été brisé par un pouvoir oppresseur, qui va mettre un masque avec un sourire, c'est un masque donc de Guy Fawkes en fait, et qui va se venger en effet des puissants. Et après ce masque là a été adopté par les Anonymous, des choses comme ça. Donc je pense qu'à mon avis il y a aussi un continuum en fait là-dessus. On voit en fait en fin de compte que cette imagerie du Joker, voilà, ce sourire en fait, un vengeur et tout, il y a aussi une continuité en fait, hein, je pense.
Il y a une forme de, effectivement, il y a une forme de révolte qui trouve ses racines dans un certain romantisme, quoi. L'homme secret au masque énigmatique, souriant et qui se venge des puissants. Effectivement, on remonte au 19e siècle.
Ouais.
Ce qui est frappant dans le personnage de incarné par Joaquin Phoenix, c'est que il n'y a pas vraiment les causes psychologiques et sociales de son évolution sont très, en fait, il y a quand même des grands vides dans le scénario là-dessus. On ne sait pas qui il est, en fait. C'est une surface dans laquelle, une surface révoltée, c'est un masque, littéralement, dans lequel on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. On peut l'interpréter aussi bien comme une ode à la révolte d'extrême gauche que à la transgression de petits blancs qui conduit à Donald Trump.
Enfin, et d'ailleurs, c'était assez intéressant la réception du film parce que c'était justement les critiques de gauche new-yorkais qui ont vu que c'était, qui pensent que c'est un film de droite,
oui,
et qui incite à la violence des incels, de pro-Trump,
oui,
tous ces gens-là. Alors, je pense que c'est un peu la première fois que j'ai vu ça, parce que normalement, ce genre de critiques un peu réactionnaires viennent de la droite pour condamner la violence à Hollywood. Et c'est il y a eu d'autres cas où parfois des démocrates étaient contre certains films. Mais par exemple, il y avait Fight Club il y a 20 ans et il y avait des critiques de droite et aussi des hommes et femmes politiques qui condamnaient le film parce qu'ils avaient peur que les gens commencent à faire de Fight Club partout. Ça, c'est la première fois où on a la gauche, en fait, qui disent qu'un film ne devrait pas forcément être interdit, mais qu'on devrait quand même faire attention parce que le cinéma peut inciter à la violence.
Oui.
Et ça, c'est... Mais je pense que ça montre juste le clivage actuel aux États-Unis entre la droite et la gauche à cause de Trump.
Et je pense aussi que c'est lié aussi au contexte avec les attentats récents, en fait, les fusillades de Mahadas.
Oui.
Voilà, donc là où il y a une vraie crainte, en fait, à mon avis. Quoi, donc...
Anthony Yen, dans le New Yorker, dit avoir haï chaque minute.
Pour moi, c'est clair.
Mais je dirais que là-dessus aussi, il faut replacer ça dans le contexte d'une critique américaine qui parfois aime bien se tirer une forme d'émulation dans les formules les plus choques. Parce que ça n'a pas de sens de dire qu'il a haï chaque minute. Enfin, je suis sûr qu'il y a des moments qui l'ont plu. Donc, je ne sais pas s'il parle du film ici ou s'il n'essaye pas de vendre lui-même son article.
Oui, c'est juste
pas intéressant ce qu'il dit, quoi. C'est d'ailleurs, notre discussion en fait montre bien à quel point c'est pas intéressant et que le film est plus que cela, qu'il plaise ou non, mais il est beaucoup plus que cela. Juste, je voulais rajouter quand même que la dimension très intéressante du Joker dans ce film, c'est par exemple dans le film de Tim Burton, le Joker incarné par Jack Nicholson, n'oublions pas en fait que le Joker est un personnage extraordinaire pour un grand comédien. Il est là pour Joaquin Phoenix, il l'était auparavant pour Heath Ledger et pour Jack Nicholson. Dans le film de Tim Burton, le Joker est un artiste raté, enfin un artiste plastique, un peintre raté. Ici, c'est très différent. C'est un stand-up raté. C'est quelqu'un qui aimerait apparaître devant les médias et qui n'en a pas le talent. Et qui donc, faute de devenir ce stand-up, se transforme en assassin. Alors, il y a une dimension politique là-dedans. C'est vrai. Mais la mettre à droite ou à gauche me paraît à la fois hasardeux et pauvre.
Oui. pardon, oui, j'ai l'impression que le cinéaste, le scénariste et les deux scénaristes, et Todd Phillips qui a réalisé le film, j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de choses dans le film, un peu beaucoup d'ingrédients. De différentes couleurs, de différentes politiques.
Sans vraiment chercher à maîtriser quoi que ce soit.
Pas forcément. Et peut-être c'est une faiblesse du film, ouais. mais c'est pourquoi on peut avoir plein de lectures différentes. Au moins, c'était ambitieux d'essayer plein de choses différentes. Mais je ne trouve pas une ligne très claire. On peut tout à fait voir que c'est un incel un peu misogyne ou qui fantasme sur des femmes. On peut aussi voir que c'est un pauvre dans un quartier pauvre qui va se revendiquer contre les riches. On peut voir plein de choses, mais je pense qu'ils ont, d'ailleurs, le film est un peu, à mon avis, un peu trop long, et c'est parce qu'il y a tellement d'ingrédients qu'ils ont tout essayé.
Non, mais les choses seraient peut-être plus claires si le scénario était plus cohérent. Par exemple, quand finalement Joker rencontre vraiment sa voisine, quand il s'introduit dans son appartement, en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Il nous raconte pas. Oui, la fille lui dit allez-vous-en s'il vous plaît.
Et
il y a
coupe,
une ellipse.
En coupe.
Et on ne sait pas ce qui s'est passé.
Oui.
Il y a comme ça un ensemble de pistes qui sont pas du tout suivies, ce qui fait que il y a quand même une impression de fouillis dans ce film à un moment donné, non?
Ah. Peut-être, enfin, moi, juste, ça me rappelle quand même beaucoup Alan Moore. Hein. Alan Moore était, par exemple, dans V pour Vendetta, là, le comics, en fait, autant dans le film de Wachowski, on a quelque chose de très clair, voilà, c'est Vendetta, enfin, V, c'est un personnage assez positif, c'est un révolté. Alan Moore est quand même beaucoup plus, puis en plus, le format comics permet de développer plus, en fait, c'est beaucoup plus ambigu, quoi. Et il laisse quand même des fins très ouvertes et beaucoup de place à l'interprétation. Pareil dans The Killing Joke, en fait, on ne sait pas ce qui se passe à la fin entre Batman et le Joker. Mm-hmm. Voilà, donc on ne sait pas. Voilà, donc je ne spoile pas cet excellent comics. Lisez-le, il est assez court en plus. Hein, donc c'est. Donc voilà, c'est. Il y a. Moi, j'ai bien aimé. En fait, vous parliez de masque tout à l'heure. Je pense qu'on est là, quoi. En fait, le masque. Voilà, c'est l'image du masque. Elle est centrale. C'est que. Qu'est-ce qu'il y a derrière le masque, en fait,
Il y a une révolte qui est un masque derrière laquelle on peut mettre absolument tout ce qu'on veut.
Et en l'occurrence, c'est aussi parfois une révolte. C'était une révolte qui est tellement primaire parce que aujourd'hui, enfin là, c'est là où le film est actuel, c'est que aujourd'hui, on a, enfin, en France ou aux États-Unis, il y a de moins en moins de possibilités d'expression politique, il y a de moins en moins de ce qu'on appelle des corps intermédiaires et tout, ce qui pouvait y avoir encore il y a 20 ans en France avec des syndicats organisés et tout, ce qui fait que parfois quand on a des explosions sociales. Ça explose, vous voyez, et ça part en tous les sens. Donc voilà, je pense que c'est très contemporain, ça. Donc, c'est très intéressant. Alors après, on peut mettre en effet les gilets jaunes si on a envie. Bon, sauf qu'en fait, le film a été écrit bien avant, mais oui. ça parle quand même, en l'occurrence, d'un contexte très contemporain, quoi. Et ça, à mon avis, ça, je pense qu'il faut mettre ça aussi dans le contexte trumpien, en fait, hein, très nettement.
Voilà.
L'élection de Trump, c'est aussi une colère parfois de gens de la classe ouvrière, des classes populaires américaines, parfois, en fait, hein, donc notamment dans le Midwest, et parfois. Même des gens, il y a des enquêtes qui montrent bien qu'il y a des gens qui ont élu, qui ont voté pour Obama, qui après ont voté pour Trump.
Oui,
ce qui est même parfois absolument délirant, on peut se dire. Mais sauf que là, c'est de l'impression d'avoir été abandonné par les élites de Washington, etc. Et tout, donc,
il y a même un des hommes de Wall Street qui est buté dans le métro, qui est une espèce de sosie de fils de Donald Trump, Eric Trump.
Ouais,
et beaucoup de gens ont remarqué ça dans les cheveux et tout. Et je pense, voilà, il y a plein de choses qui sont mises dans le film sans forcément savoir ce que ça va donner. Mais peut-être cette ambiguïté aussi qui fait en sorte que le film a tellement marché.
C'est ce vide-là qui fait qu'une révolte, en fait, vide à l'intérieur, mais qui exprime quelque chose dont on ne sait pas ce qu'elle est.
Et on s'intéresse à ça, oui.
Ouais. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Jean Frédérics et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
10,000